Alors ce soir, Laetitia Calmen s'excuse, mais elle ne peut pas assurer son topo, donc je ne la remplace pas. Elle voulait parler du sacerdoce. Je vais donc essayer de vous parler du sacerdoce. Et pour ça, je vais partir du Concile Vatican II. Donc, ce que je vais dire, ce sont des idées que je n'ai pas inventées, mais que j'ai pêchées dans Concile Vatican II, à lire et à relire, parce que je trouve qu'il y a vraiment des perles. Alors d'abord, quand on parle du sacerdoce, on pense à une figure du sacerdoce éminente, le Christ, bien sûr, on va y revenir, mais peut-être plus prosaïquement, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, qui avait une définition du sacerdoce que je trouve très très belle. Le curé d'Ars disait « C'est l'amour du cœur de Jésus ». Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Tout ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, on peut le ramener à ça. Alors, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire l'amour du cœur de Jésus ? Le sacerdoce, en fait, c'est un mouvement. Le sacerdoce, c'est un service qui se manifeste particulièrement dans une personne, et cette personne, c'est le Christ. Il n'y a qu'un grand prêtre. Le seul grand prêtre qui existe, c'est le Christ. Alors c'est intéressant parce que vous allez voir que le mouvement en question, il est archi simple. C'est d'abord un mouvement qui descend et ensuite un mouvement qui remonte. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur du Père qui descend vers les enfants pour leur donner sa grâce, pour leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre, et qui remonte, avec l'aide du Saint-Esprit, via Jésus-Christ de Nazareth, au cœur du Père. Voilà. Vous voyez, c'est un mouvement qui descend, et ensuite qui remonte, et dans lequel nous sommes pris. Nous sommes pris dans ce mouvement. Dans la Trinité, dans la vie trinitaire, le mouvement de la vie trinitaire, c'est un mouvement sacerdotal. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser une autre image avant d'entrer dans le concret, parce que vous allez voir, on va entrer dans le concret des choses, mais avant ça, toujours d'une façon un petit peu abstraite, est-ce qu'on a une autre image sacerdotale ? L'autre image sacerdotale, c'est l'image du prêtre qui est à l'autel, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi à l'autel précisément. Et précisément à l'autel, au moment où le prêtre offre Jésus à son Père, quand il dit « par lui, avec lui et en lui », à ce moment-là, eh bien, le prêtre ne peut pas être plus prêtre, c'est-à-dire qu'il prête son corps à Jésus, il prête son corps au Père, il prête son corps à l'Assemblée pour pouvoir offrir Jésus à son Père. Mais c'est un mouvement d'offrande et d'amour, de don du Fils au Père, pour que le Père puisse ensuite faire jaillir dans chacun de nos cœurs cette puissance d'amour qui jaillit du cœur du Père vers le cœur du Fils et du cœur du Fils vers le cœur du Père, mais dans lequel nous sommes pris. Vous voyez ? Le rôle sacerdotal, c'est de prendre l'humanité et de l'amener au Père. Petite parenthèse, nous avons reçu, nous les prêtres, ce ministère de la part des mains de l'évêque. Donc nous sommes prêtres, on est des ministres, d'accord ? Donc vous avez bien entendu, un ministre, c'est quoi ? Un ministre, décortiquez le mot en latin, ministre, ça veut dire petit serviteur, mini. Facile. Ministre, petit serviteur. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la personne elle-même du ministre n'est rien à côté de ce qui se passe dans le ministre pour le monde entier, en fait, pour l'humanité. Ce qui fait que, pour ma part, quand... oui, là, je voudrais finir la parenthèse d'abord que j'ai ouvert. Et ça, c'est un ministère qu'on a reçu, mais vous aussi, vous avez reçu un ministère sacerdotal. Enfin, ce n'est pas un ministère, vous avez reçu une vocation sacerdotale qui vous a été donnée au moment du baptême. Donc vous êtes responsable de cette action de grâce qui monte vers le Père, de ce remerciement et de cette louange, action de grâce et louange, très précisément vers le Père. Ça, c'est votre job, c'est le job de tout baptisé, c'est aussi le mien comme baptisé, bien sûr. Mais plus profondément, ce sont des théologiens qui ont soulevé cette idée que je trouve très très belle. Le Seigneur a voulu marquer d'une façon plus profonde encore l'être féminin du sacerdoce, puisque dans le cœur de chaque femme qui naît, il y a une fonction sacerdotale ontologique. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans les églises. C'est parce que dans votre être profond, vous avez une aptitude que nous n'avons pas, nous les hommes, à porter l'humanité vers Dieu. C'est pour ça que la personne qui est attaquée en premier dans la Genèse, c'est la femme. Pas qu'elle est la plus faible, loin de là, mais c'est parce qu'elle est elle a une vocation sacerdotale ontologique, et donc en cassant la femme, enfin en cassant les femmes, eh bien on sépare l'humanité de Dieu, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il va falloir une autre femme qui ne va pas être prêtre. S'il y en a une qui aurait pu être prêtre, c'est bien la Sainte Vierge. Et autour de Jésus, il y avait d'éminentes femmes qui auraient pu tout aussi bien être prêtres. D'ailleurs, des femmes qui ont reçu l'annonce de la résurrection, Marie-Madeleine, mais des femmes qui ont reçu aussi l'annonce de l'Église. En fait, à chaque fois que Jésus a besoin que le message soit transmis, il le transmet par les femmes. Pourquoi ? Pas parce qu'elles parlent, pas parce qu'elles sont pipelettes, mais parce qu'elles sont ontologiquement prêtres, déjà. On n'a pas besoin de créer un ordre pour ça. Jésus le sait très bien. Et donc, finalement, ce n'est pas qu'il fait confiance aux femmes, c'est qu'il sait que naturellement, elles vont porter ce message d'une façon plus ajustée. Voilà. Mais revenons au ministère sacerdotal, puisque le fait est que le bon Dieu a nommé des prêtres et pas des hommes, des prêtres hommes et pas des femmes. Donc je viens de le dire parce que moi je pense que ontologiquement, les femmes sont déjà prêtres, donc pas besoin d'être ordonnées. Et puis ensuite, la deuxième raison pour laquelle le Seigneur choisit des hommes et pas des femmes, c'est qu'entre les deux, le plus faible, c'est clairement l'homme. Non. Le plus fragile, c'est l'homme. Bien sûr, tout le monde le sait. Et le Seigneur, elle a pris l'habitude, à toujours, toujours, de tout temps, quand il veut manifester les choses les plus belles, il prend les plus faibles. Il prend les plus pauvres. Moi, je ne suis pas du tout étonné qu'ils prennent des hommes, parce que c'est vrai qu'on est, on est fragile. Nous, les hommes, on est assez simples. Pierre, Bruno, Jérôme et les autres. C'est assez simple, au fond, là-dessus. C'est pour ça que les femmes sont très contentes, souvent, parce que elles se posent. Augustin, elles sont toujours là. Elles se posent sur nous et elles savent qu'on ne va pas bouger, quoi. Enfin, normalement. Je plaisante, mais pas que. Pas que. Il y a une sagesse extrêmement profonde, vous voyez. La figure de Saint Joseph, c'est une figure d'un vrai mâle. Saint Joseph ne bouge pas. Il est là du début à la fin, il encaisse tout. Et il fait ce que le Seigneur lui demande. C'est ça la vocation masculine. Pour ça que le Seigneur nous remet le sacerdoce. C'est pas parce qu'on est meilleur, loin de là. On le sait tous. Puis il n'y a qu'à regarder les journaux pour voir qu'on n'est pas les meilleurs. Au contraire, le Seigneur prend les plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Et donc le truc du Seigneur, c'est que c'est bien plus facile de manifester sa gloire dans une personne qui est fragile plutôt que dans une personne qui est parfaite. Voilà. Je vous dis, je vous répète, pour moi, si j'avais été DRH de Jésus-Christ de Nazareth au moment de créer le sacerdoce, j'aurais pris la Sainte Vierge direct. Non, c'est vrai, elle est Immaculée Conception. Quelle est celle, du point de vue de l'humanité, qui peut le mieux porter cette mission? Oui, sauf que Jésus n'a pas fait ça. Alors, il ne l'a pas fait pour une autre raison. C'est que quand le prêtre est à la messe, vous verrez tout à l'heure, j'espère que j'aurai le temps, que la messe, c'est le centre de tout. C'est le centre de tous les sacrements. Et quand le prêtre dit « consacre le pain et le vin », il parle au nom de Jésus. C'est-à-dire que le prêtre reçoit la mission de Jésus, il est le porte-parole de Jésus, soit, quand je vous commente l'écriture, c'est un de mes devoirs, c'est de vous commenter l'écriture, pour rassembler le troupeau, j'en parlerai tout à l'heure, mais quand je célèbre l'Eucharistie, et à un moment très précis de l'Eucharistie, pas pendant toute l'Eucharistie, j'agis in persona Christi Capitis. C'est-à-dire que je n'agis pas par ordre, j'agis in persona Christi Capitis. C'est-à-dire que j'ai reçu ce don sacerdotal que Dieu a donné à son Fils et qui m'a donné aussi. Dit comme ça, c'est classieux, non? C'est pourtant la vérité. Et ça ne met pas les prêtres au-dessus des autres hommes, bien au contraire, ça met les prêtres juste dans un état de service. Il y a eu toute une polémique à une certaine époque pour savoir, dans le genre humain, quels étaient ceux qui étaient les plus importants. Il y avait toute une partie des gens qui disaient « mais les prêtres, bien sûr !» Et il y a encore, je sais, des peuples entiers, hein, des civilisations entières, que je ne veux pas trop citer parce que je ne veux pas stigmatiser les choses, mais qui considèrent qu'entre l'humanité en général et Dieu, ben, il y a les prêtres. Donc, on ne contredit pas un prêtre, on s'assure qu'il soit toujours comme une sorte de Bouddha, bien huilé, qu'il ait tout ce qu'il faut pour vivre. Voilà, il y a une forme d'adoration des prêtres qui est extrêmement malsaine à mon point de vue, parce que le prêtre, ce n'est pas ça du tout. Le prêtre, ce n'est pas d'abord celui qui consacre le pain et le vin. Le prêtre, c'est d'abord celui qui vous le donne. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas prêtre pour avoir le pouvoir de consacrer le pain et le vin. Je ne suis pas prêtre pour avoir le pouvoir de vous libérer de vos péchés. Je suis prêtre parce que quand j'ai Jésus entre les mains et que je vous le pose dans la main ou dans la bouche, je suis victorieux. Je me dis, c'est bon. Il vient de recevoir le meilleur, je ne peux pas faire mieux. Et moi, c'est ce qui m'a convaincu d'être prêtre quand j'ai choisi le sacerdoce, enfin plutôt quand j'ai répondu à l'appel et que j'ai dit accepter l'appel que le Seigneur m'a lancé. Ce qui m'a fait accepter, c'est uniquement ça. C'est que je me suis dit, quel est le plus grand bien que tu puisses faire? Quel est le truc, le plus grand bien que tu puisses accomplir? Quel est le plus grand bien qu'un être humain puisse accomplir? Aller sur la lune, faire des opérations, être médecin, etc. Je me suis dit, le plus grand bien qu'un être humain puisse accomplir, c'est mettre Jésus dans la bouche de quelqu'un. Non, mais pas là. Là, quand tu fais ça, c'est réussi direct, quoi. Il n'y a pas de truc plus important. Pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez, ce n'est pas de manager des groupes, ce n'est même pas de diriger une communauté, parce que ça fait partie de la charge du prêtre. Mais pour moi, c'est ça le plus important, c'est donner Jésus. Point terminé. Ce n'est pas de le fabriquer, c'est de le donner. C'est important. C'est important. Mais on y reviendra. Alors, je rappelle la citation du curé d'Ars, c'est un amour, c'est l'amour du cœur de Jésus, le prêtre. Vous comprenez maintenant pourquoi, ici à Notre-Dame des Victoires, et Dieu sait si j'aime la Sainte Vierge et je serais prêt à mourir pour elle 40 fois, bah c'est pas le plus important, la Sainte Vierge. Bah non, elle le sait bien, puisqu'elle a donné la vie à Jésus. Mais bon, vous êtes dans un endroit où vous êtes porté vers la Sainte Vierge, mais où ce n'est pas l'unique but. Celui qui s'arrête là, dans l'église, il a fait que la moitié du parcours. Il faut qu'il aille là-bas, au tabernacle. Et c'est mon devoir de prêtre de vous le faire comprendre, d'animer ce mouvement. Mon devoir de prêtre, ce n'est pas seulement de vous attirer depuis l'extérieur, mais c'est de faire en sorte qu'une fois dans cette Église, vous puissiez être en situation d'offrande au Père. À ce moment-là, j'ai fait mon job de prêtre. Si à la fin de mon sermon, vous avez envie de vous offrir au Père, le Père Antoine a fait un bon sermon. Si vous n'avez pas envie de vous offrir au Père, si vous avez pensé à votre poulet ou toute autre chose de façon involontaire, c'est que je n'ai pas fait mon job suffisamment bien. C'est clair et net. C'est pareil pour la façon de célébrer la messe. Moi, je disais toujours ça aux séminaristes. Vous devez être transparent. Parce que l'important, c'est que vous puissiez courir au Père. Ce n'est pas que vous mangiez Jésus. Ce n'est pas le moment le plus important de la messe. Ce n'est pas la transformation du pain et du vin en Jésus. Ce n'est pas ça le moment le plus important. Le moment le plus important, c'est quand Jésus est offert à son Père, parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir le recevoir. Parce qu'au moment où j'offre Jésus au Père, je vous offre chacun au Père. C'est ça le moment le plus important de la messe. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez ? Tout converge vers cette offrande au Père. Et la suite, c'est la conséquence de cette offrande au Père, c'est-à-dire que matériellement, vous allez recevoir la grâce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le mouvement descendant qui commence à partir du péripsum. Alors, souvent, on définit les personnes, on définit les fonctions par la nature, vous voyez, par la nature des choses. Moi, j'aime bien, c'est plus facile, je trouve, de parler des gens, ou de parler d'une situation, ou de parler d'une vocation, pardon, par la fonction. Voilà. C'est quelque chose d'assez naturel. Quand vous allez dîner chez des amis, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, moi, je suis kinésithérapeute, moi, je suis dirigeant d'entreprise, moi, je trimballe les cartons à Notre-Dame-des-Victoires pour qu'on puisse avoir des bougies. Moi, je prie comme bonne sœur, machin, etc. Et en fait, c'est vrai que notre fonction nous définit pas mal quand même. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la seule façon de nous définir, mais ça nous définit pas mal, notre fonction. Alors, du coup, quelle est la fonction du prêtre ? Il exerce la fonction sacerdotale. Je vous l'ai dit, donc je ne vais pas trop m'arrêter là, mais il agit donc au nom du Christ, d'accord, et comme tête et personne. Alors, est-ce que ça veut dire que parce que le prêtre agit au nom du Christ et comme tête et personne, il a toujours raison? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est quelque chose qui le renvoie à sa responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas vocation à avoir raison, mais j'ai vocation, ma vocation, c'est vous donner la vérité, mais pas ma vérité. La vérité qui est dans le cœur de Jésus, qui est le cœur, qui est le chemin, la vérité et la vie, vous voyez. C'est pour ça que, sauf quand j'ai trop de travail, je ne peux pas m'en sortir autrement, je prépare toujours mes sermons, parce que la vérité, elle se cherche, parce que la vérité, on ne la possède pas, la vérité, comme c'est une personne. Il faut aller mendier auprès de cette personne ce qu'il y a à dire aux gens. Mais qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur ? Et le Seigneur, il ne vous envoie pas des cartes postales. Parfois, il y a des motions, c'est vrai, et insiste plus sur ce point ou sur ce point. Mais la plupart du temps, le Seigneur, il utilise les bouquins, figurez-vous. Ce sont des vérités que je lis dans les livres et que je relis et que je relis et que je relis et que je relis. Et c'est le Seigneur qui, par l'Esprit Saint, me dit « Assiste là ». Insiste là-dessus. Ou en écoutant un autre prêtre ou un autre évêque, souvent je me dis, tiens, lui, ce qu'il est en train de dire là, c'est... Vous avez remarqué, je ne lis jamais mon texte parce que je veux que ça sorte de mon cœur, que ça soit passé par la moulinette du cœur et par la moulinette de l'Esprit Saint. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas travaillé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan. Mais il y a toujours un travail. D'ailleurs, chers frères et sœurs, avec beaucoup de tendresse, si vous voyez un prêtre qui ne travaille pas ses sermons, il faut lui dire. Parce que nous sommes prêtres pour vous, et notre vie n'a de raison d'être que pour vous. Il n'y a pas d'autre raison d'être. Je ne vis pas pour autre chose. Donc si vous êtes mal nourri, ben faut gueuler. Il y en a certains qui sont champions du monde pour le faire. Mais il faut le dire, les choses, vous voyez. Alors, on peut le dire avec beaucoup de délicatesse. Je me souviens, un jour, je n'avais pas eu le temps de travailler mon sermon, et il y a un monsieur très gentiment qui est venu me prendre par le bras et qui m'a dit « Mon père, il faut aller vous reposer. » J'ai bien compris qu'il avait compris que je n'avais pas eu le temps de bosser parce que j'avais trop fait de choses pour Dieu. Au lieu de faire des choses de Dieu, je n'avais pas mis les choses dans le bon ordre. Du coup, je me suis retrouvé coincé. Vous voyez, dites les choses, parce que c'est le prêtre. On dit souvent, on a le prêtre qu'on mérite. C'est pas vrai, c'est faux. Je crois pas du tout. Parce que vous n'êtes pas si extraordinaire que je le suis. Non, je plaisante. Parce qu'on est tous des pauvres, on est tous extrêmement pauvres, et que le seul mérite d'une vérité qui passe, ou qui vous éclaire, ou qui vous nourrit, eh bien on la doit à Jésus, tout simplement. On la doit à son Père, on la doit à l'Esprit Saint, qui peaufine le cœur du prêtre, heure après heure, minute après minute, tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas vrai de dire qu'on a le prêtre qu'on mérite. La meilleure preuve, c'est que le curé d'Ars, quand il arrive à Ars, il a 400 âmes. Et l'évêque lui dit, vous y mettrez un peu d'amour, on y aime bien peu le bon Dieu. C'est bien le signe. Est-ce que les gens qui étaient à Ars méritaient le curé d'Ars? Non. Est-ce que le curé d'Ars méritait les gens d'Ars? Non plus. Ça ne veut rien dire, à mon avis, vous savez. Moi, je dirais plutôt, vous êtes là, je suis là, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Faisons en sorte, ensemble, que la puissance de l'amour de Dieu nourrisse votre âme. Le reste n'a aucune importance, dans mon esprit en tous les cas. Et donc, du coup, il faut travailler à ce service. Et c'est pourquoi... À Notre-Dame des Victoires, on a énormément de chance, mais c'est le prêtre, le curé, le prêtre qui vous est envoyé, est responsable, entre autres, de la liturgie. C'est lui qui est responsable, qui porte le poids de la liturgie. Alors, heureusement, moi, j'ai beaucoup de chance, parce que les sœurs font un boulot fantastique, et que on est merveilleusement bien servi, donc il n'y a rien à dire, quoi. Le socle initial sur lequel la mission peut être portée est extrêmement solide grâce à une liturgie qui, je trouve ici, est extrêmement solide. Alors bien sûr, on se frotte de temps en temps avec les sœurs parce que du façon superficielle, il y a des choses que je trouve bizarres, quoi. Mais c'est complètement superficiel. C'est parce que c'est mes goûts propres, vous voyez. Alors évidemment, mes goûts propres... Elles le savent, je le sais, et on sait tous que l'important, c'est que la communauté soit bien servie. Et je dois dire qu'à chaque messe, la communauté, je pense, de mon point de vue, est bien servie. Alors maintenant, on peut être fatigué, on peut essayer de chanter et puis se tromper. Nous, ça arrive, l'erreur est humaine, on assure tous un service avec notre pauvreté. J'aime beaucoup penser qu'à travers ma pauvreté, ma propre pauvreté, il y a l'amour de Dieu aussi qui passe, vous voyez. Voilà. Donc, première fonction du prêtre, la fonction sacerdotale, agir au nom du Christ et comme tête et personne. Deuxième chose, le but du prêtre, c'est de vous aider à rendre gloire à Dieu. Comment est-ce qu'il le fait, le prêtre? Eh bien, le prêtre, il prie. La première chose à faire quand on est prêtre, c'est de prier. Voilà, moi je prie, j'essaye de prier le plus souvent possible, le mieux possible. C'est vrai qu'il y a une part un peu personnelle, hein. Je ne suis pas un moine, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'office, mais ce n'est pas mon rythme. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'arrêter comme les sœurs s'arrêtent. Les sœurs, c'est incroyable. On travaille, on est en plein boulot, ting, ça sort, hop, elles foncent à leur vocation. Et je le vois bien dans leur façon de courir. Hein, ma soeur ? C'est leur vocation, elles y sont. Et quand elles sont au cœur, c'est là qu'elles doivent être. Et pas en train d'inventer un truc avec le Père Antoine dans le bureau ou de monter un pèlerinage. Ce n'est pas leur job. Quand on a monté les fraternités, la première chose que je leur ai dit, mais elles ont très bien senti, elles savent maintenant, on se connaît bien. C'est pas leur job, c'est mon job, c'est le job des paroissiens. En revanche, c'est toujours très intéressant, quand une sœur vient me voir, elle me dit, mon père, est-ce que vous avez vu que... Et comme c'est des sentinelles de l'invisible, parce qu'elles sont des femmes, et en plus de ça consacrées, bah, vachement intéressant. Elles ont un regard qui est vachement intéressant. Enfin, de mon point de vue. Donc, le prêtre, c'est celui qui prie. Si un jour, vous voyez, vous pensez qu'un prêtre, et ça se voit, un prêtre qui ne prie pas, ça se voit tout de suite. Alors là, moi, je suis sanglant avec ça, ça se voit tout de suite. C'est pas comme lui. Un prêtre qui ne prie pas, je ne vais pas commencer maintenant à vous faire le discernement, mais ça se voit, vous sentez bien qu'il n'est pas centré. Il est centré sur autre chose, quoi. Il s'éparpille. Bon, dans ces cas-là, il faut lui botter les fesses. Article 1, vous allez lui botter les fesses, vous lui dites, mon frère, ça ne va pas, vous ne priez pas assez. Article 2, vous priez pour lui. Bah oui, parce que je vous rappelle que c'est lui qui vous nourrit. Donc si vous voulez avoir à manger, bah oui. Donc le prêtre, d'abord, c'est celui qui prie. Le prêtre, ensuite, c'est celui qui annonce la parole. C'est comme ça qu'il réunit le peuple. C'est pour ça que vous avez... Je ne dis jamais ce que je pense. Ça ne sert à rien. En revanche, j'essaye de connaître la pointe des textes. Et la pointe des textes, c'est ça que je vous dois. Vous voyez ? Un sermon, ce n'est pas fait pour commenter l'actualité. Alors même si je m'amuse un peu en ce moment avec le Parlement et le président de la République... pour faire des captations, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est d'abord de vous apporter la nourriture vive. Voilà. Donc j'annonce la parole, j'espère à temps et à contre-temps. Si ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit, il faut crier. Et puis, le prêtre, c'est celui qui d'abord offre le sacrifice de la messe et qui ensuite... donne les autres sacrements. Je vous rappelle qu'un sacrement, c'est une action invisible, une action visible par une action de Dieu invisible par un acte visible. C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit par les mains d'un pauvre type. Ça va ? C'est pareil, si vous voyez un prêtre qui ne dit pas la messe tous les jours, eh bien vous avez le droit d'aller lui botter les fesses. Un prêtre qui ne dit pas la messe tous les jours est en grave danger. Alors il y avait une règle avant, on devait toujours être assisté pour dire la messe. Ça c'est le Concile de Trente. Le Concile Vatican II nous libère de ça et considère qu'un prêtre doit dire, c'est écrit en toutes lettres, hein, le prêtre doit s'unir à Jésus pour pouvoir offrir son peuple au Père. Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est pas de l'ordre, uniquement de l'ordre de la police, vous voyez. Parce que en fait, la déflagration, enfin, si le prêtre vous met en danger parce qu'il fait pas bien son travail, vous serez vraiment en danger. Mais vraiment, si je vous commente autre chose que la parole. Vous allez être en danger parce que le démon rôde comme un lion qui va et vient à la recherche de sa proie. Et le responsable de cette mise en danger C'est moi, c'est pas vous. Parce que je vous aurais pas nourri. Et c'est pas une question de police, hein, c'est aussi une question de salubrité publique. C'est important de le dire, il me semble. Voilà, et puis le prêtre, c'est celui qui célèbre les autres sacrements. Ne lui demandez pas de le faire parfaitement. Priez pour qu'il le fasse parfaitement. Mais l'important, c'est qu'il le fasse. Je me souviens, un jour, j'étais séminariste et j'ai dit à un prof: mais est-ce que quand je célèbre la messe, si je célèbre la messe alors que j'ai péché, c'est valable? Il me dit oui, même si tu as tué ce rembli de Marie juste avant, si tu célèbres la messe, la messe est valable. À ce moment-là, je me souviens très bien de ma réaction, je vois très bien où je suis à ce moment-là. Je lui dis: bon, ça va, je peux être prêtre. Bah oui, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi l'important c'est que vous ayez Jésus. Ceci dit, c'est quand même mieux si le prêtre ne fait pas trop de péché. C'est quand même mieux si c'est un saint homme. Alors comment est-ce qu'un prêtre devient un saint homme? Ben grâce aux gens qu'il sert. Le prêtre, il devient saint parce qu'il aime. Et un prêtre qui aime, ce n'est pas un prêtre qui fait des câlins, c'est un prêtre qui apporte Jésus tout le temps. Qui apporte la tendresse de Jésus, qui apporte le discernement, qui forme. Voilà. Notre responsabilité du prêtre, c'est qu'il doit former le peuple qui est rassemblé par la parole. Il a aussi, et c'est important de le dire, le prêtre, une fonction de chef. Je suis désolé de vous le dire brutalement, mais c'est écrit en toutes lettres dans le concile: le prêtre est chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le chef de Jérôme? C'est sa tête. Mais, d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, quand on met un chapeau, on dit que c'est un couvre-chef. Donc, le prêtre, il est chef, mais au sens qu'il représente la tête. Mais la tête n'est pas la partie la plus importante, parce que vous coupez la tête, le corps ne marche pas plus. C'est juste une fonction. Sauf qu'il a celle-là. Et moi, j'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre sur mon enseignement, sur les choses que j'ai dit ici, depuis cette chaire. J'aurai des comptes à rendre. Donc c'est grave aussi. Vous voyez, on ne peut pas dire n'importe quoi. Un prêtre ne peut pas s'amuser à dire n'importe quoi. C'est pour ça que s'il y a des choses qui ne sont pas vraies, vous pensez que ce n'est pas vrai, conseil d'amis, allez en parler à quelqu'un d'autre dans la paroisse. Et puis ensuite, vous venez de me dire: père, je pense que là, tu t'es trompé. Je vais vous dire, ça m'est arrivé très récemment. Moi, je suis tempérament super distrait. C'est comme ça. Désolé. Je ne peux pas faire mieux. J'essaie de me corriger depuis 60 ans que je vis. Bientôt. C'est super dur. Alors souvent, quand je pense il ne faut pas faire tel truc, c'est sûr je le fais. Ça, c'est quand je suis trop fatigué. Vous savez que, par exemple, quand on baptise un enfant, eh bien, on baptise, la formule elle doit toujours être trinitaire. C'est-à-dire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la formule trinitaire. Et moi, à chaque fois que je baptise un enfant, je me rappelle ça, je me dis, ça, c'est la formule trinitaire. Et donc, parce que je suis un peu trop précis, j'ai tendance à me dire, bah, il ne faut pas que tu dises au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ça, c'est pas la formule trinitaire et le baptême n'est pas valide. Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait le week-end dernier, le Père Antoine? Je me suis dit, faut pas le faire. Et puis j'étais tellement crevé, tellement dans l'action, tellement machin, que je l'ai fait. Pas volontairement, il n'y avait rien de volontaire, hein, absolument rien de volontaire. Donc, Ecclesia supplète. L'Église supplée à ma défaillance. Mais il y a un homme qui est venu me voir dans la sacristie, très gentiment, avec une délicatesse infinie, qui a dit « Père, voilà, je sors du séminaire, ça fait 7 ans que je suis au séminaire, et moi je me disais, bon, ben, qu'est-ce qu'il va me raconter ?» Et il m'a dit « Voilà, et puis très délicatement, il tourne autour du pot, il finit par me cracher la valda. » Je lui dis « Ah, je suis complètement désolé, je suis vraiment désolé, désolé, pardon, 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 pardon. » Voilà. Ben, vous voyez, on porte véritablement, enfin moi j'en fais tous les jours l'expérience, un trésor dans un vase d'argile. Mais ce n'est pas parce que le vase est en argile que le trésor n'est pas là. L'enfant, il a quand même été baptisé valablement parce que je n'avais pas la volonté qu'il ne soit pas baptisé dans autre chose que la foi trinitaire. Donc, ecclésia souplette. Voilà. Le prêtre, il est chef, c'est-à-dire qu'il conduit. C'est lui qui a la vocation de discerner. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas d'initiative, mais ça veut dire que c'est à moi que revient la charge de savoir si c'est bon ou pas pour la paroisse. C'est terrible hein, comme charge. C'est pour ça qu'avec la sœur, très très souvent, on a mis au point un truc, moi je trouve qui marche très très bien, en tout cas moi j'en suis très satisfait, c'est que quand on a une décision à prendre, qu'elle soit importante ou pas, mais que c'est une décision à prendre, eh bien, on se dit toujours, quand c'est pas clair, on prie 48 heures. On ne prend pas la décision. On attend. On prie. On jeûne. Et la lumière apparaît. Mais quand la lumière apparaît, ce n'est pas elle qui décide, c'est moi. Mais sans l'éclairage de la sœur, ma décision ne peut pas être facile. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est que dans la décision du chef, il y a votre éclairage. Je me souviens d'un jour, sœur Marie-Mathieu qui vient me voir et qui me dit « Mon père, il y a un tel, on a une loge, ça serait bien de le mettre dans la loge. » Oui, d'accord, réfléchissons, prions. Mais si sœur Marie-Mathieu n'avait pas vu que c'était possible, moi je passais complètement à côté du truc. Vous voyez, bon, puis il y a plein de détails de la vie de la paroisse où on fait très très attention quand les décisions sont prises, croyez-moi. Je ne prends pas de décision à la légère, sauf des petites décisions de réciter le chapelet à la va-vite quand je trouve que machin, mais ça c'est... Ça fait partie des petites choses. Ça va, donc le prêtre et le pasteur, il conduit le troupeau, il le rassemble et il l'éduque. Dans la vocation sacerdotale, il n'y a pas seulement une vocation à servir, il y a une vocation d'éducateur. Dans la question du service, c'est le deuxième point, c'est le prêtre, c'est celui qui sert, mais qui sert en priorité les plus pauvres. Si vous voyez un prêtre qui est toujours avec les plus bien habillés, les plus beaux, les plus riches, etc., il ne va pas bien. Si vous le voyez traîner avec les pauvres, si vous voyez s'occuper des pauvres, si vous le voyez être attentif aux plus pauvres, ça c'est un prêtre qui va bien. Attention, méfiez-vous, si vous reprochez à un prêtre de ne pas s'occuper des plus pauvres, vérifiez bien que c'est la vérité parce que souvent il le cache. Souvent il le fait en catimini. Et vous ne le voyez pas. Je dis ça, je dis rien. Et de s'occuper des pauvres et des malades. Le prêtre a un job de médecin, il est médecin. Pour ça que nous attachons tellement d'importance à la prière du premier samedi du mois. Et puis la dernière chose, c'est que le prêtre, et c'est celui aussi qui est responsable de former la communauté. Ce n'est pas forcément qu'il doit, sauf pendant les sermons, mais être professeur, il n'a pas forcément la vocation à professer, mais il a la responsabilité de faire en sorte qu'il y ait une éducation qui soit faite. Et quand Laetitia Calmène vient et nous parle des sacrements, ben nous avons choisi Laetitia Calmène, et j'assume le choix de Laetitia Calmène. Si après l'évêque vient me dire Dis donc, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'est ma responsabilité, c'est pas la responsabilité des sœurs et c'est pas la vôtre. Vous voyez ? C'est pour ça que voilà, les choses sont claires. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur, mais ça veut dire qu'il y a un emploi. C'est un emploi. Un peu comme un médecin qui décide les médicaments que vous allez prendre. Ben, à vous de les prendre ou de ne pas les prendre, les médicaments. Mais le médecin, il prend la responsabilité de vous dire, voilà, tu prendras du Doliprane. Ben, mon rôle à moi, c'est pas que je me sentais vraiment pas supérieur aux autres, mais mon rôle à moi, c'est de choisir qui va vous enseigner. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important que vous disiez votre avis aussi. Par exemple, Laetitia, la première fois qu'elle est venue enseigner ici, c'était très complexe. Je lui ai dit, écoute, tu laisses tes bouquins à la sacristie, tu viens, tu t'assois à la table, et puis tu professes sans bouquin. Elle a fini par le faire, et je trouve que c'est de très haute qualité ce qu'elle dit. Si vous pensez que c'est facile à comprendre, attention, c'est peut-être que vous n'avez pas tout compris. Surtout venant de Laetitia. Ça va ? Je crois que on peut encore en parler beaucoup, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel du rôle sacerdotal du prêtre, donc du ministre. Voilà, on peut se confier à la Sainte Vierge avant la messe, et pardon aux prêtres qui célèbrent la messe avec 5 minutes de retard. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur.